Les conférences du Collège de France.
Bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette, comme Jean-Luc vient de le rappeler, la dernière séance donc, de cette série de quatre conférences sur les néo-hiéroglyphes ou les pseudo-hiéroglyphes ou les faux hiéroglyphes, comme vous l'entendez. Et on va terminer avec un personnage qui hante mes journées, pas mes nuits, je vous rassure, mais depuis quand même quelques années maintenant, le père Athanase Kircher, qui occupe la presque totalité du XVIIe siècle, puisque je vous ai mis là une petite bio-express du personnage. Il est né pratiquement avec le siècle, en 1602, la date est disputée, certains disent 1601, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce que nous avons à faire ici, dans un petit village, pas très loin de Fulda. Il est ordonné prêtre dans la compagnie de Jésus, donc c'est un jésuite, et il va, la tradition s'en est conservée, encore de nos jours, sont des hommes orchestres, donc il va enseigner la théologie, bien sûr, mais aussi des branches scientifiques, comme les mathématiques et les langues orientales. Alors, il enseigne d'abord à Wurtzbourg et il en est chassé par la guerre de 30 ans, et son ordre le réaffecte en France, dans le sud de la France, à Avignon, où il va à nouveau enseigner les mathématiques. Et c'est là, on le verra, qu'il va faire la rencontre de Peiresc, prince des lettres, et avec qui va le lancer, comme on le verra, dans les études orientales. Alors, heureux homme, en 1645, donc il a 44 ans, quelque chose comme ça, on le décharge de ses enseignements pour qu'il puisse se consacrer totalement à la recherche. Il aura même un assistant scientifique, ce qui n'était quand même pas si fréquent à l'époque. Et donc, il aura deux grands secteurs d'activité, un secteur plus dans le domaine des sciences exactes, où il va d'ailleurs faire de l'expérimentation, et puis alors l'Égypte, qui sera quand même la grande passion de son existence. Et il décède à Rome, donc une fois qu'il quitte Avignon, où il ne restera que quelques années, il va être basé à Rome, où il ne quittera pratiquement plus jusqu'à la fin de ses jours, et donc il décède en 1680. Vous voyez un des portraits du père Kircher. En dehors de ses activités purement livresques, on va dire, il a eu la passion aussi de la collection. Et donc, il avait un musée, le Muséum Kircherianum, dont vous voyez ici une représentation, une gravure. Alors, les spécialistes se demandent si le personnage qui est ici, qui est clairement un ecclésiastique, un jésuite, ne serait pas peut-être le père Kircher en train d'accueillir des visiteurs dans son musée. Donc, vous voyez, on peut déjà appeler ça un musée, mais c'est un cabinet des expositions, si vous voulez, à la puissance 10, puisque c'est beaucoup plus important. Et on peut reconnaître là des objets qui sont plutôt des témoignages des sciences naturelles, mais aussi des égyptiaques, et notamment, mais là je crois qu'on a été un peu généreux, quelques obélisques qui sont placés triomphalement, comme ça, pratiquement comme des cierges sur des chandeliers. Donc vous en avez probablement trois ici en enfilade, plus encore un ici. Ce musée a failli péricliter dès le décès de Kircher. Il y a deux catalogues qui en ont été faits. Le plus connu est celui-ci, qui date, lui, de 1709, Bononi, et qui est relativement complet, mais dans son introduction, Bononi constate déjà que par rapport à l'inventaire qui avait été fait au décès de Kircher, pas mal d'objets avaient disparu. Et si vous vous promenez dans les musées de Rome, il n'est pas rare, parfois sur un cartel, de voir « ex-musée kirchérien ». Donc vous pouvez, comme ça, disperser dans beaucoup de musées de la capitale. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt la production livresque du père Kircher. C'est un homme qui était très généreux avec l'écrit, ne s'exprimait pratiquement qu'en in-folio, donc ça fait tout de suite beaucoup de pages, dans un latin parfois un peu difficile, mais la tâche de celui qui s'intéresse aux écrits de Kircher est un peu facilitée par le fait qu'il se copie beaucoup. Donc il y a beaucoup de passages que l'on retrouve comme ça, mais parfois par dizaines de pages, hein, que l'on retrouve d'un volume à l'autre. Alors il y a, pour ce qui concerne l'Égypte, j'ai fait trois séries ici. Il y a d'abord, et c'est ça qui va vraiment le faire connaître, deux ouvrages où il lance en quelque sorte, mais je vais revenir là-dessus dans un moment, les études coptes. C'est au début de sa carrière scientifique à Rome, donc on est autour des années 1640. Et puis alors, des ouvrages alors qui ont vraiment trait à l'Égypte ancienne et plus spécifiquement à l'écriture hiéroglyphique, avec deux ouvrages majeurs qui ont été conçus en même temps, publiés pratiquement en même temps, mais conçus en même temps et depuis déjà très très longtemps, puisque déjà dans le Prodromus, donc de 1636, il annonce déjà en quelque sorte ces deux volumes. Donc c'est l'Obélisque Pamphile et l'Édipe égyptien, auxquels on peut ajouter alors deux autres contributions, un peu plus petites quand même. Sur les obélisques égyptiens, il s'agit d'une publication qui vient après la remontée de certains obélisques qui se trouvaient sur l'Iséum du champ de Mars, et le Sphinx Mystagogue, qui lui est une publication qui a été causée par la venue d'une momie qui était décorée, qui avait des inscriptions, et donc Kircher reprend alors la question des inscriptions pour une dernière fois, puisque là on est en 1676, donc 4 ans avant le décès du père. Et alors, je rattache à ça deux ouvrages, l'Arche de Noé et la Tour de Babel, qui ne sont pas directement concernés par les écritures égyptiennes, mais qui se rattachent quand même, d'une manière ou d'une autre, aux préoccupations générales du père Kircher, parce qu'il y fait allusion à l'origine des langues, l'origine que, bien sûr, pour lui, il voit une origine commune dans la dispersion et dans la diffusion des langues. Donc ça, c'est plutôt pour le dernier ouvrage, un Tour de Babel, juste un an avant sa mort. Et l'Arche de Noé, c'est aussi l'occasion de revenir un peu à cette question des origines qui va le tarauder quand même pendant de nombreuses années. Et donc, c'est un personnage, c'est très, très important de noter ça, qui est très bien en cours. Donc, il a la protection des puissants, notamment dans les états pontificaux, donc de certains cardinaux et de certains papes, mais aussi dans le monde temporel, et notamment de l'empereur Ferdinand III. Donc, ce sont des soutiens importants. En revanche, dans le monde scientifique, et notamment dans le domaine des sciences exactes, je pense par exemple à des gens comme Descartes ou Leibniz, ont très rapidement pris leur distance avec le personnage. Descartes, par exemple, qui recevait quelques exemplaires de la production de Kircher, a vite fait savoir que ça ne l'intéressait plus et qu'il ne fallait plus rien lui envoyer et que ça ne l'intéressait absolument pas d'être tenu au courant. Et donc il reçoit, grâce à ses soutiens, deux commissions importantes. D'abord l'aménagement, il va contribuer avec le Bernin à l'aménagement de la Piazza Navona, autrefois Piazza Agonale, et il va aussi participer à l'érection de l'obélisque de la Piazza della Minerva, à nouveau avec le Bernin. Donc voilà, je vais vous illustrer ça ici dans un tableau de Canaletto. Vous voyez ici l'obélisque Pamphile, comme on l'appelait alors, tout simplement parce que le pape Léon X était de la famille des Pamphili et que les Pamphili avaient, c'est plutôt par ici, avaient leur palais sur la Piazza Navona et le pape voulait depuis ses fenêtres pouvoir contempler l'obélisque. Ce vous pouvez encore faire si vous allez à l'école française de Rome et que vous logez sur la Piazza Navona et que vous avez des fenêtres du bon côté, évidemment, il faut quand même un certain nombre de conditions, vous pouvez être au bon endroit pour avoir une des faces, en tout cas, de l'obélisque. Quant à l'obélisque de la Piazza Navona, c'est celui de la Piazza della Minerva, pardon, c'est un de ces petits obélisques, un obélisque de poche, comme le disait un de mes maîtres, et qui provient donc de l'Iséum, du grand Iséum du champ de Mars, qui se trouvait non loin de là. Et vous voyez que dans la composition, c'est un rappel tout à fait clair d'une des gravures célèbres de l'Hypnerotomachia Polyphili. Ici, je vous en propose une des planches dans l'édition Princeps de 1499. Donc vous avez là clairement un point de convergence entre cette œuvre qui a vraiment marqué les esprits et qui fait en quelque sorte un peu le lien, me semble-t-il, entre les néo-hiéroglyphes de la Renaissance et puis la conception, je vais y revenir, de la conception de Kircher en ce qui concerne l'écriture hiéroglyphique. Donc je l'ai dit, il est chassé de Wurtzbourg par la guerre de 30 ans, par les troupes de Gustave Adolphe, qui... je crois, aurait fait un sort pas très enviable au représentant de la Compagnie de Jésus. Et il va donc arriver à Avignon avec déjà une obsession et une réputation. Alors l'obsession, ben, c'est celle des hiéroglyphes. Il nous raconte dans une de ses publications, il y fait allusion dans des lettres aussi, que lorsqu'il était en Allemagne, il a eu la chance de tomber sur un... je ne sais plus exactement le terme qu'il emploie, mais un album ou figure, ce qu'on connaissait comme monument égyptien à l'époque. Alors il ne dit pas de quoi il s'agit, mais le plus vraisemblable est qu'il a eu sous les yeux l'album de Herwart von Hohenburg, donc le thésaurus des hiéroglyphes, où... Et bon, là, dans cet album qui fait une quarantaine de planches à peu près, vous avez les 20 premières planches sont consacrées à la Mensa Hésiaca, des planches générales et puis des planches de détail. Et puis alors, vous avez une série de planches qui reprennent tous les obélisques qui étaient connus à l'époque, les vrais, les moins vrais et les presque faux, mais ça, c'est pas important. Et puis alors, d'autres monuments comme des sphinx ou des statues cubes. Et... Donc le plus probable, c'est qu'il a eu ça sous les yeux et il a eu cette fascination et cette révélation aussi, parce que c'est un peu les termes qu'il emploie, que d'une certaine manière, il serait destiné, lui, à comprendre comment les hiéroglyphes fonctionnaient. Il a un peu ce sentiment-là. Et puis alors, donc ça c'est son obsession qui ne le quittera plus, et la réputation alors qu'il a, c'est qu'il aurait eu à nouveau en Allemagne la chance de mettre la main sur un manuscrit arabe qui aurait été, disons, un texte donnant la clé pouvant permettre de résoudre le mystère des hiéroglyphes. Alors ce manuscrit, personne ne l'a jamais vu. Quand il arrive à Avignon et qu'il rencontre Peiresque, qui était un homme intéressé par la collection de tous les manuscrits orientaux et notamment tout ce qui pouvait aider au déchiffrement de l'Égypte, Peiresque à plusieurs reprises le presse pour avoir le volume afin d'en faire une copie, refus de Kircher, pour pouvoir le voir ne fût-ce que quelques heures, refus de Kircher, et une troisième fois, juste pour le voir, mais vraiment comme ça, vous voyez, ouvrir et puis refermer, même ça, personne n'a jamais pu réussir à avoir le volume, même fermé finalement, d'où une indécision de la part des spécialistes qui se demandent si le volume a jamais existé, si ce n'est pas tout simplement une invention du père Kircher. D'autres se demandent si finalement Kircher ne s'est pas rendu compte que ce manuscrit en fait n'allait aider en rien au déchiffrement des hiéroglyphes, que c'était peut-être, même certains ont pensé à ça, une sorte de orapollon arabe, mais ça, nous n'en avons pas vraiment des traces. Cela posé, nous avons quand même dans les collections, nous avons des manuscrits arabes consacrés à, comme ils les appellent, aux écritures mystérieuses, aux écritures secrètes, et quelques-uns d'entre eux, et c'est notamment le cas ici de Ibn Washiya, ou plutôt du pseudo Ibn Washiya. Je suis désolé, mais tous les auteurs dont on doit parler sont à peu près tous des pseudos. Donc Ibn Washiya, ici, comme vous voyez, sur quelques pages, a reproduit ce qui est, à n'en pas douter, des hiéroglyphes. Et il y a deux parties dans l'ouvrage de Ibn Washiya. Dans une première partie, il donne des équivalences entre des signes et des réalisations phonétiques. Ce n'est pas le cas ici, tandis que ici, ce sont des équivalences avec des réalités sémantiques. Donc vous voyez ici, on ne va pas tous les faire, mais vous voyez ici Halal, Malik, etc. Donc parfois ça tombe bien, mais parfois ça tombe quand même un peu moins bien, donc ça existe. Et par ailleurs, il y a aussi des manuscrits alors qui sont plus occupés, plus préoccupé avec de l'alchimie, et notamment celui-ci qui est assez connu, qui se trouve à la British Library, où on a ici, manifestement, un peu déformé, parce que vous reconnaissez peut-être ici, s'il y a des alchimistes dans la salle, ou des pseudo-alchimistes, le corbeau ici sous des couleurs différentes qui symbolisent les différentes opérations alchimiques quand on doit réaliser l'œuvre. Mais ici, vous avez un peu déformé, mais très nettement quand même, la copie d'une stèle d'Aménémate. Donc, ce genre de choses existe évidemment, mais qu'est-ce que le père Kircher avait au juste en main ou croyait avoir en main? Ça, nous ne le saurons jamais. Toujours est-il qu'avec cette réputation, Peiresque, il est temps que je vous présente un peu mieux, Nicolas-Claude Fabry de Peiresque, hein, donc qui est pas tout à fait, mais même pas du tout d'ailleurs, de la génération de Kircher, c'est la génération avant, cherche à ce moment-là quelqu'un pour publier des scalaï arabo-coptes, c'est-à-dire des manuscrits qui venaient d'être amenés en Italie par le voyageur Pietro della Valle, ici, dont vous voyez ici une édition des fameux voyages dans une édition française. Et della Valle avait amené à Rome des manuscrits contenant des listes de mots, de vocabulaire arabe et copte, plus une grammaire. Et on cherchait quelqu'un pour publier ça. Alors, le premier choix, c'était porté sur Tommaso Obicini, mais qui est mort avant d'avoir pu réaliser le travail. Il est décédé en 1632. Et Pérez, qui était un peu la cheville ouvrière de tout ça, qui contribuait financièrement aussi à certaines opérations scientifiques, cherchait quelqu'un pour publier ces fameux manuscrits dont vous voyez ici un exemplaire, celui de la Vatican, enfin, ils sont tous au Vatican, et vous voyez donc comment c'est fait. Vous reconnaissez ici l'arabe et vous avez ici les textes coptes. C'est une partie ici un peu plus grammaticale. Et donc, Pérez cherchait quelqu'un pour continuer l'œuvre d'Obicini. Il pense d'abord à Claude Sommez, mais Sommez était protestant, donc c'est un peu difficile de faire passer ça à la cour pontificale. Et puis il y a ce jeune jésuite qui arrive, manifestement intéressé par l'Égypte, et qui a ce fameux manuscrit arabe. Et donc le choix se porte sur Kircher, qui va accepter. Il est encore fort jeune à l'époque, hein, donc on est dans les années 1635, quelque chose comme ça, quand on lui confie ce travail, donc il a 32, 33 ans. Il accepte ça, d'autant plus qu'il y voit la possibilité de pouvoir s'installer à Rome, définitivement, ce qui est vraiment son rêve. Et ça va donner deux publications avec un petit décalage, donc on est autour des années 1640. Un premier volume, d'abord le Prodromus, donc des prolégomènes, si vous voulez, à la langue copte ou égyptienne. Donc vous voyez qu'il fait déjà la liaison entre les deux, où il va exposer donc un certain nombre de considérations préliminaires qui lui paraissent tout à fait nécessaires pour comprendre ce qui va suivre. Et puis alors, l'édition à proprement parler des fameux manuscrits qui suit alors dans la Lingua Egyptiaca Restituta. Donc vous voyez déjà le programme qui est là derrière. Donc avec ces deux ouvrages qui vont vraiment le faire connaître, il aura vraiment une notoriété très importante à ce moment-là dans la République des Lettres, il fonde, et j'ai mis malgré lui, les études copte, malgré lui parce que d'abord c'est pas le premier choix hein, pour éditer ça, et puis aussi parce qu'il va très rapidement se désintéresser des études coptes. Donc après la publication de ces deux volumes, Pérez lui dit, ben voilà, maintenant il faut publier des textes. Donc on avait des textes, et il faudra attendre le siècle suivant pour que soient publiés enfin les premiers textes, notamment certaines traductions de la Bible en copte. Alors, a une certaine conscience d'un lien qu'on pourrait établir entre le copte et la langue égyptienne des pharaons, mais il ne le perçoit que de manière confuse, je dirais. D'abord, et il n'est pas le seul à le faire, peut-être le premier, mais c'est une tradition qui sera suivie après, il fait remonter le copte à la plus haute antiquité. Donc, dans la théorie de Kircher, il faut bien voir qu'il y a d'une part les hiéroglyphes. Je vais y revenir dans un moment. C'est une écriture. Les hiéroglyphes, ce n'est pas une langue. Ça ne note pas une langue. C'est une écriture qui est symbolique, qui sert pour transmettre les vérités les plus élevées de la religion égyptienne. Et comme il faut bien que les Égyptiens communiquent entre eux, il y a une langue vulgaire. Ce n'est pas tout à fait faux. On pourrait discuter de ça. Et le copte sert à noter ça. Donc depuis le départ, si vous voulez, depuis l'époque des pyramides, il y a une écriture hiéroglyphique et une écriture copte. Bon, en cela, il fait fausse route. Et il inverse aussi la chronologie, non pas des langues, mais des écritures. Dans un premier temps, il pense que l'écriture grecque dérive de l'écriture copte. Dans ses derniers écrits, il remettra les choses à l'endroit, mais au début, c'est quand même ça qu'il y pense, à quoi il pense, et on y reviendra un peu plus tard dans l'exposé. Donc, malgré les insistances vraiment, mais très 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 fortes, très très lourdes de Pérès, Kircher va abandonner complètement. Il ne reviendra jamais plus au copte, et donc il faut attendre encore longtemps, au moins presque un siècle à peu près, vers 1730, pour avoir les premières publications de textes coptes. Alors, pour synthétiser les choses, parce qu'on n'a pas, énormément de temps, ce qui intéresse Athanas Kircher au premier chef, il ne faut jamais oublier ça, c'est un théologien. Donc, dans tout ce qu'il fait, il se pose la question à quoi ça peut servir au rayonnement de l'Église. On est aussi à l'époque de la contre-réforme, donc il faut bien comprendre ça. Ce qu'il veut faire, c'est montrer l'unité de l'Église. Donc, dans toute cette dispersion qu'il constate, dispersion des langues, dispersion des cultures, dispersion des religions, dispersion géographique, il faut montrer, bon, on ne peut pas nier la diversité, mais on peut au moins essayer de montrer qu'elle a une origine commune, un point alpha ou un point oméga, c'est comme vous voulez, et c'est ça qui est très important. C'est à ce titre-là que la tour de Babel et l'arche de Noé participent un petit peu aux réflexions de Kircher sur les écritures hiéroglyphiques. Et alors, œuvre de théologien, parce que ce n'est pas que faire œuvre d'archéologue, d'essayer de remonter au début, c'est aussi faire œuvre de théologien, parce que c'est évidemment montrer que ce qui est exposé dans la Bible, et notamment sur les origines, est effectivement ça, que ça tient la route, et qu'il faut montrer la source unique de la foi et de la religion, et ça depuis la création. Donc moi je suis intimement persuadé que Kircher n'a jamais véritablement été intéressé par la civilisation égyptienne pour elle-même, et par l'écriture hiéroglyphique pour elle-même. Il a instrumentalisé ça pour servir à d'autres fins. Donc, Kircher va donc se servir des hiéroglyphes. Il n'est pas le premier à le faire. Il y a une tradition qui remonte à la Renaissance, nous l'avons vu dans les conférences précédentes, mais il va quand même se démarquer fortement de certaines pratiques de la Renaissance. Tout d'abord, Kircher, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à amuser la galerie. Lui, il ne va pas passer son temps à s'intéresser aux néo-hiéroglyphes. Il ne s'occupe pas de ça du tout. Il va au contraire travailler avec des documents, c'est le premier à le faire, des documents authentiquement égyptiens, ou en tout cas des documents dont on pensait à l'époque que c'était des documents égyptiens. Donc il ne cherche pas à composer des inscriptions, même si on le verra, il a fait une petite entorse, et il ne s'inscrit pas du tout, évidemment, dans une quelconque démarche esthétique ou artistique, comme pouvaient le faire les artistes renaissants. Il n'y a pas non plus ce goût que les artistes de la Renaissance avaient de participer à un divertissement. Ça n'intéresse pas du tout Kircher. Et alors, surtout, il va se donner un important fil rouge théologique qui va le guider tout au long du déchiffrement et qu'on peut résumer sous l'appellation un peu générique de Prisca Theologia ou théologie primitive, si vous voulez, dont je dirai un mot dans un instant. Mais c'est quand même quelqu'un qui est dans la tradition de la Renaissance. Donc, c'est la figure de Kircher. C'est pour ça que je l'ai inclus finalement dans cette série de conférences. C'est une figure un peu curieuse, un peu ambivalente aussi. Il a son programme, qui est tout à fait différent des gens de la Renaissance, c'est pas un artiste, mais par sa manière de travailler, il conserve quelque chose de l'esprit de la Renaissance. En effet, il va conserver les mêmes sources théoriques, on va voir ça dans un moment, essentiellement les auteurs classiques. Il va surtout, et ça c'est ce qui sera le plus lourd de conséquences, conserver la même méthode d'approche de l'écriture, c'est-à-dire l'approche symbolique, et ça c'est vraiment le plus important. Et ce faisant, il continue l'esprit de la Renaissance et notamment de la première Renaissance, là où on a quand même quelques écrits de théoriciens, donc je pense surtout à des gens comme Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, Erasme aussi, qui ont écrit sur l'écriture hiéroglyphique, pour qui, continuant la tradition des néoplatoniciens, l'écriture hiéroglyphique est uniquement symbolique, ce qui veut dire que c'est une écriture qui ne note pas une langue. Donc il y a une déconnexion complète entre l'écriture hiéroglyphique et la langue égyptienne. Quand vous lisez un texte hiéroglyphique, tout ce que vous devez pouvoir faire, c'est reconnaître les symboles. Et une fois que vous avez reconnu les symboles, peu importe la langue dans laquelle vous vous exprimez, vous pouvez retrouver le sens des inscriptions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et Kircher continue dans cette voie-là. C'est pour ça qu'il faut l'inclure, parce que Kircher, si vous voulez, va vraiment incarner la continuité dans la discontinuité, mais la fin d'un mouvement. Après Kircher, on ne fera plus ça. Donc Kircher, c'est un aboutissement d'une certaine manière. Et alors, dans cette quête, donc, des origines, des traces des origines de la foi catholique, il va alors sélectionner un type de monument en particulier qui sont les obélisques. Alors, pourquoi les obélisques ? Bah, peut-être parce qu'il y en avait beaucoup à Rome et qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses, c'est une possibilité. Et peut-être alors a-t-il plaqué là-dessus une explication ? Parce qu'il consacre alors énormément de pages pour nous expliquer justement pourquoi l'obélisque, en fonction de ses proportions, en fonction de sa forme, en fonction des matériaux utilisés, etc., ne peuvent évidemment qu'être les monuments les plus idéaux pour recevoir les inscriptions qui sont par ailleurs les inscriptions les plus sacrées de la religion égyptienne. Donc si on regarde ces sources d'un peu plus près, il a en gros cinq types de sources. Alors, la Bible et les sources grecques et latines, ça ne nous étonnera pas beaucoup. Mais alors, il va inclure beaucoup de sources orientales et notamment des sources d'auteurs juifs et arabes, sans faire beaucoup de tri. Ça peut être des historiens, ça peut être des géographes, mais ça peut être aussi des sources un peu plus ésotériques, voire la Kabbale. Donc ça ne le dérange pas beaucoup. Il va alors, contrairement aux hommes de la Renaissance, baser ses études sur des monuments, donc essentiellement les obélisques, mais aussi statues, stèles, scarabées, tout ce qui peut contenir des écrits hiéroglyphiques. Et il va aussi se lancer dans des études comparatives, ce qui est nouveau à l'époque. Vous savez que la Compagnie de Jésus envoyait des missionnaires dans le monde entier, et Rome était vraiment le point focal d'un énorme réseau. Donc tous ces missionnaires faisaient des rapports, ces rapports arrivaient à Rome et Kircher en avait connaissance. Donc il va avoir la possibilité de se frotter un petit peu à ce qui se faisait en Chine, en Inde. Donc c'était des types d'écriture, je pense surtout aux Chinois, et des types de langues qui étaient tout à fait exotiques, mais ça va aussi de l'autre côté, puisqu'il aura aussi connaissance de certaines écritures mésoaméricaines, et notamment de l'écriture maya. Donc il va essayer à nouveau, dans la recherche du point unique, tout fait farine au bon moulin, évidemment, puisque tout est susceptible d'être une trace de quelque chose de plus ancien. Alors, si on regarde maintenant un peu plus en détail, je ne vais le faire que pour les sources des auteurs classiques. Si on regarde les auteurs classiques qui sont généralement mobilisés par Kircher, ben, il y a d'abord, sans grande surprise, il y a plutôt des historiens ou des géographes. Il y a alors des auteurs qu'on peut rattacher à l'école médio ou néo-platonicienne. Il y a alors des auteurs un petit peu plus tardifs qui ont parlé un peu plus longuement, parfois même en théorisant un petit peu des propos sur l'écriture, parfois sur la langue égyptienne, comme Plutarque notamment dans le Déiside, et aussi Clément d'Alexandrie, qui probablement rapporte certaines traditions d'hiérogrammates. Il y a le corpus hermétique et les hiéroglyphica du pseudo Horapollon. Et puis j'ai mis un petit peu à part alors le témoignage d'Amien Marcellin. Vous savez peut-être que dans les Res Gestae, donc de Amien Marcellin, il y a un passage dans lequel on raconte l'arrivée du dernier obélisque qui arrivera à Rome, qui sera installé sur le Cirque Maxime. Et à cette occasion, Amien Marcellin rapporte une traduction d'un autre obélisque qui se trouvait aussi sur le Cirque Maxime, traduction qui aurait été faite par un hiérogrammate nommé Hermapion, et il donne cette traduction en grec. Et pas mal d'études ont paru sur cette traduction, qui n'est pas tout à fait une traduction, on va dire que c'est plutôt une paraphrase, mais qui rend quand même assez fidèlement finalement ce qu'il y avait sur l'obélisque. Or, ce sont des propos, je ne dirais pas d'une grande banalité, mais enfin, ça ne touche pas à la religion, ce sont des titres de pharaon, c'est des épithètes comme on en trouve généralement sur ce type de monument, et c'est le seul motif pour lequel Kircher va complètement négliger et repousser le témoignage d'Amien Marcellin en disant « c'est pas possible qu'il y ait ça sur l'obélisque » parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les obélisques, ça ne sert pas à ça. Les obélisques, ça sert à recevoir les grandes vérités de la religion égyptienne. Et donc, si on trouve, soi-disant, sur un obélisque, des choses aussi stupides et banales que le nom d'un pharaon, quelques épithètes le glorifiant, ben, ou bien on n'a pas compris l'inscription, ou bien parce qu'il laisse une petite porte entrouverte, peut-être que le témoignage d'Hermapion est à prendre en considération, mais que ce qui donne comme traduction, ça vient d'un autre monument, mais ça ne vient pas d'un obélisque. Comme ça, ça lui permet de sauvegarder un peu l'honneur d'Hermapion, qui, j'imagine, n'en demandait pas tant. Alors, la méthode de Kircher, comment va-t-il faire pour essayer donc de percer le mystère des hiéroglyphes? Mais sur un plan théorique, il va beaucoup utiliser des auteurs comme Jean Blic, essentiellement, parce qu'il voit là les clés de ce qu'il va pouvoir faire ici, c'est-à-dire une approche symbolique, en utilisant surtout le principe de l'analogie, de la motivation aussi, parfois de l'intuition. Je vous l'ai dit, il ne répugne pas à aller chercher des témoignages d'auteurs ésotériques, parfois proches aussi des écrits kabbalistiques, que ce soit dans l'ésotérisme arabe juif, mais aussi dans l'ésotérisme chrétien, par exemple, qu'on retrouve pour la Kabbale chez Pic de la Mirandole. Il pratique aussi à l'occasion un peu de numérologie, et ça le lie au pythagorisme. Et puis alors, il pratique une sorte d'universalisme, que ce soit dans le domaine de l'écriture ou dans le domaine des religions, ce qui lui permet de voir des comparaisons, à nouveau en utilisant des principes d'analogie, entre des choses qui, il faut bien le dire, relèvent peut-être d'une certaine typologie universelle, mais en tout cas certaines, ne prouvent certainement pas qu'il y a des liens de cause à effet entre ce qu'il veut comparer. Et puis alors, il a aussi le goût de l'étymologie, mais les étymologies du père Kircher, là aussi, on est en pleine période de créativité, mais nous sommes à une époque où les bases scientifiques de l'étymologie n'étaient absolument pas établies. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème pour le père Kircher de prendre un mot, de le couper en deux ou en trois, et d'aller chercher pour chacun des morceaux une signification dans des langues différentes, alors qu'en principe, même les mots composés ne fonctionnent pas de cette manière. Comme ça, vous voyez un petit peu. Donc, je vais illustrer maintenant un peu la méthode du père et les résultats auxquels il croit être arrivé en prenant quelques exemples, parce qu'on pourrait parler pendant des mois et des mois, vous pensez bien, je vous ai dit que le père Kircher ne pensait qu'en in-folio, donc rien que pour ce qui concerne l'Égypte, c'est 4500 pages à peu près, donc même s'il y a certaines parties qui sont recopiées, ça fait quand même pas mal de pages, et on pourrait comme ça discuter longuement de certaines de ces trouvailles. Alors je vais juste prendre quelques exemples, et le premier provient de la Mensa Ezyaka. C'est un exemple, je crois, qui est vraiment un peu caricatural de ce qu'il peut faire. Alors, petite carte d'identité d'abord de la Mensa Ezyaka, comme ça on sait de quoi on parle. C'est un artefact romain, bon, c'est une plaque de bronze, hein, qui est à peu près comme ça, qui est pour l'instant conservée au musée de Turin. On s'accorde à la dater du 1er siècle de notre ère. Elle est probablement liée aux activités du grand centre culturel d'Isis, hein, au Champ de Mars, là où on a retrouvé quelques obélisques. La table est perdue probablement à la fin de l'Antiquité, en tout cas on n'en avait jamais entendu parler avant, et elle refait surface dans le premier quart du XVIe siècle, vers 1510, 1520, quelque chose comme ça. Alors quand on la regarde, voici une gravure ici qui en a été faite. Vous voyez que pour ce qui est de l'iconographie, ça reproduit pas mal ce qu'on pourrait trouver dans certains temples égyptiens, notamment d'époque tardive. Ce sont des scènes d'adoration ou des scènes d'offrande. Il y a aussi ici le Sematawi avec des génies. Donc ça, c'est manifestement quelque chose d'égyptien. Quand vous regardez les hiéroglyphes, ceux qui sont ici sont les bandeaux, pas la frise, hein, mais ceux qui sont ici dans les bandeaux ou entre les personnages, pris individuellement, ce sont des hiéroglyphes. Mais tout mis ensemble, ça ne veut rien dire du tout. Donc ce sont simplement des hiéroglyphes qui sont là pour évoquer une certaine image de l'Égypte. Si vous voulez, ce sont des index, ce sont des signes qui pointent vers quelque chose, mais qui sont des hiéroglyphes, mais ce ne sont pas des textes hiéroglyphiques, je peux dire ça comme ça. Cette table a été immédiatement reconnue comme appartenant à la plus haute antiquité. Donc je vous ai dit qu'elle était probablement du 1er siècle de notre ère, mais pour les savants de l'époque, et notamment pour Athanasius Kircher, c'était un document de la plus haute antiquité. Il fallait véritablement se pencher sur cette table avec une grande attention, parce que ça allait probablement donner une des clés, en tout cas, pour déchiffrer les hiéroglyphes. Erward von Hundburg, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui consacre plusieurs planches à cette table, avait interprété la table comme étant une table marine. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, le père Kircher, avec beaucoup d'à-propos cette fois-ci, a démonté ça. Alors, Kircher a eu l'attention attirée par une petite scène qui se trouve ici. Et là, on est, en fait, c'est un déplié, hein, c'est sur le bord que ça se trouve, le bord de la table. Et donc ici, vous avez une petite scène que je vous ai agrandie ici, et dont il va déjà traiter dans le Prodromus Egyptiacus, donc dans ces volumes où il est censé d'abord s'occuper du copte. Mais je vous ai dit que très très tôt, il envisage déjà les deux grandes publications de l'Obélisque Pamphile et de l'Édipe égyptien. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit là? On va voir comment il éclate la figure ici pour l'expliquer sémantiquement. Mais ce qui va l'intéresser, c'est les signes qui se trouvent là. Alors, avec un peu de bonne volonté, on peut voir un O ici. Là, si vous pensez que c'est du grec, mais rien ne vous oblige à penser que c'est du grec, ben, vous verrez que c'est un lambda. Bon, admettons que c'est un epsilon, et puis ici, il y a quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon. Et alors, pour Kircher, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ah oui, c'est un petit problème ici. Ça doit se lire fulo, donc avec un phi, un epsilon, un lambda et un omicron. Et, dit-il, rappelant ce qu'il a fait dans la publication des Scalae, il n'y a pas de doute pour lui que ce mot fulo, qui est un mot copte, signifie l'amour. Je vous ai dit que la perception de Kircher sur la filiation respective ou les relations respectives du grec et du copte avait un petit peu fluctué. Et donc là, il est encore à un moment où il pense, comme il le met ici, que le vocabulaire grec, donc les mots que nous connaissons, philein, philos, philia, etc., sont dérivés, en fait, du copte. Donc il n'a aucun problème à lire cette inscription phulo et à en faire, en mettant en fait les choses cul par-dessus tête, en allant chercher le mot grec philein, je suppose que l'iotacisme ici abonde, pour proposer la traduction de ce phulo signifiant amour, et en faisant alors dériver le mot grec de ce mot copte qui n'existe pas. J'espère que vous me suivez toujours. Alors, c'est pas tout, il va ensuite faire une analyse iconographique alors de cette figure. Donc vous vous rappelez, la figure, il éclate tous les morceaux et il va en donner d'abord une interprétation bona fide, en quelque sorte, ce qu'on voit. Alors peut-être qu'on peut voir la Lune ici, peut-être qu'on peut voir les orbites ici, admettons, voir le Soleil dans une tête, ça c'est déjà un peu plus compliqué. Et puis, donc ça c'est la décomposition, l'analysis, et puis alors il va en donner le sens alors proprement symbolique, en mettant à nouveau l'accent donc, sur ceci, le principe d'amour qui est le seul principe qui est capable de fédérer toutes les parties. Et puis, comme il a des vues toujours à la portée de l'univers entier, donc il transpose ça alors dans une vision proprement cosmique, et il vous propose alors un magnifique schéma ici, où là, on n'est plus sur Terre, évidemment, ici, on est dans des proportions intergalactiques, où vous voyez que les quatre lettres principales de ce soi-disant phulo sont aux quatre coins, et puis vous avez alors les différentes parties de cet homme scarabée qui vont alors assumer différentes places symboliques dans l'organisation de l'univers. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Hein, on est vraiment dans un système de réflexion symbolique et analogique. Alors, je vous ai parlé de la Prisca Theologiae, il est temps de voir un petit peu comment ça fonctionne dans l'esprit des théologiens de l'époque. On pose donc à l'origine, ici, à l'époque d'Adam, une sagesse parfaite. Donc, Dieu donne à Adam la révélation de la sagesse. Adam doit nommer également les choses, et vous savez qu'il y a un lien existentiel, ontologique, entre le nom qu'on donne aux choses et la chose elle-même. C'est ce qui est aussi un des fondements du néoplatonisme. Les noms ne sont pas là par hasard. Et que va-t-il se passer jusqu'à notre époque? On est ici. C'est que l'humanité va osciller entre des moments de sagesse et des moments où cette sagesse est polluée, avec parfois des moments où la sagesse est retrouvée, comme ce sera le cas grâce à Hermès Trismégis, qui, en parenthèse, n'est pas un Égyptien, mais qui vient en Égypte, et c'est à lui qu'on doit l'invention des hiéroglyphes. Et puis alors arrive la chute de Babel, tour de Babel, qui est la cause de la dispersion alors des nations à la surface de la Terre. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est. Alors, Kircher et d'autres se sont posé la question, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer d'inverser le mouvement, en quelque sorte? Donc on a ce mouvement de dégradation, en quelque sorte. Est-ce que ce serait possible de repartir dans l'autre sens? Eh bien ça, grâce à la Prisca Theologiae, c'est possible. Parce que suivant donc ce principe de théologie primitive, lorsque a eu lieu cette catastrophe de la tour de Babel, vous devez voir ça comme une grande centrifugeuse. Hein, donc tout le monde est là, puis on tire le cordon comme dans un panier à salade, et tout le monde est expulsé comme ça à la surface de la terre. Mais chacun, chaque nation va conserver un morceau de la vraie foi. Et alors le coup de génie, c'est parfois même sans le savoir, à l'insu de son plein gré, comme on aurait dit, hein, de vos anciens premiers ministres. Et donc, grâce à ça, il est donc possible d'aller voir dans les documents égyptiens, grecs, latins, mais aussi chinois, mais aussi indiens, mais aussi mayas, de retrouver des traces qui permettraient de retrouver la sagesse primitive. Et donc, là-dedans, l'Égypte ancienne a un rôle particulier à jouer, et c'est bien pourquoi Kircher va concentrer son attention sur les monuments égyptiens écrits en hiéroglyphes. À nouveau, en faisant ça, c'est pas l'Égypte ancienne ni les hiéroglyphes qui l'intéressent vraiment, c'est de faire de la théologie, n'est-ce pas ? Alors, autre exemple, me semble-t-il, qui est aussi caractéristique de la manière dont le père Kircher travaille parfois, c'est ce cas-ci qui est bien connu. Alors, il s'agit d'un passage qui nous a été livré par Clément d'Alexandrie et par Plutarque. Alors, je commence par celui, ils diffèrent très très peu entre eux. Clément rapporte donc à Diospolis d'Égypte, sur ce qu'on appelle le pylône sacré, on a gravé un jeune enfant, symbole de la naissance, et un vieillard, symbole de la décrépitude, puis le faucon, symbole de la divinité, avec le poisson, signe de la haine, et à nouveau, parce qu'il en a déjà parlé précédemment, le crocodile, mais ici avec un autre sens, l'impudence. Le tout mis ensemble, rapporte Clément, le symbole paraît avoir cette signification « Ô vous qui naissez et qui périssez, Dieu est l'impudence ». Et on a à peu près le même passage chez Plutarque dans le De Isidée, si ce n'est que le crocodile a laissé la place à un hippopotame. C'est la seule différence. Mais pour ce qui est de la signification de l'inscription, et je vous les rapporter ici en grec pour les deux, à part une inversion des deux derniers termes, c'est exactement la même citation. Alors cela, et c'est un des rares exemples qu'on en ait, c'est pas très fréquent, à la Renaissance, on s'est dit, ben tiens, on va refaire des hiéroglyphes avec ça, puisqu'on nous dit qu'il y a une inscription, finalement, et on nous donne les signes, et donc ça vous donne des choses comme ceci. Voici, on est ici donc dans les Hieroglyphica de Valeriano, on est en 1556. Vous voyez un obélisque, et sur l'obélisque, vous reconnaissez un jeune enfant, un vieillard, l'aigle, le poisson, et au cas où vous ne l'auriez pas reconnu, c'est un hippopotame. Apparemment, tous ceux qui se sont laissés aller à des représentations se fondent sur le témoignage de Plutarque, donc, et pas sur celui de Clément. Vous avez ici dans les emblèmes d'Adrianus une autre représentation. Est-ce qu'ils ont jamais pensé que réellement en Égypte, il y a eu un jour un monument qui ressemblait à ça ? J'ose quand même croire que non. Donc vous retrouvez à nouveau nos protagonistes. Vous voyez que notre hippopotame ici ressemble plus à un chien que toute autre chose. Et ici, chez Kircher, c'est une autre représentation, on a vraiment ici un hippos potamus, si vous voulez. On a vraiment un cheval qui est en train de sortir de la rivière. Et pas le temps d'entrer dans les détails ici, mais l'interprétation qui est donnée par Plutarque et par Clément est un petit peu altérée dans ce cas-ci. Alors, dans tout ça, comme je vous l'ai dit, l'Égypte joue vraiment un rôle capital, un rôle moteur, parce qu'on savait, notamment par les auteurs anciens, qu'elle avait hérité et transmis une tradition antique, l'Égypte, mère des sciences, exorienté, luxe, en fait, c'était un discours qui était bien connu. Les prêtres, là-dedans, étaient vus comme les dépositaires d'une sagesse proprement antique, et lesquels, Prisca Theologia oblige, contenaient des traces importantes de la vraie foi. Cette sagesse est consigné sur les obélisques au moyen des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes ont été inventés pour ça, spécifiquement pour ça. Et ils permettent aussi de conserver le secret vis-à-vis des profanes. C'est quelque chose sur quoi on insiste déjà à la Renaissance, c'est que la vérité n'est pas bonne à mettre en toutes les oreilles ou en toutes les mains. C'est un principe qui sera d'ailleurs nettement combattu par les protestants, dont justement le message était de dire il faut par exemple que la Bible soit traduite dans les langues naturelles. Donc cette idée qu'on allait couper en quelque sorte les croyants de la religion était quelque chose qui passait très mal auprès des protestants. Les hiéroglyphes ne notent donc pas une langue, puisqu'ils forment une écriture symbolique, et pour arriver à percer les symboles, il faut reconstituer toute l'encyclopédie de l'Égypte. C'est pourquoi les volumes de Kircher sont généralement précédés d'une introduction qui est plus longue, souvent, que l'exposé lui-même. Si vous prenez son ouvrage le plus important, l'Édipe égyptien, trois tomes, le tome 2 en deux volumes, en fait, il n'y a que le dernier tome qui s'occupe véritablement des inscriptions hiéroglyphiques. Les trois premiers, ce sont en fait des considérations générales sur ce qu'est un symbole, comment lire un symbole. Enfin, c'est vraiment essayer de reconstituer cette encyclopédie. Et donc, ces deux opéra magna, ces deux ouvrages les plus importants, qui ont été conçus grosso modo en même temps, c'est d'une part l'obélisque Pamphile qui, lui, puisque c'est une commande, s'attache vraiment à cet obélisque qui est aujourd'hui Piazza d'Avona, et il va donc en proposer signe par signe une interprétation, et puis alors un ouvrage beaucoup plus général qui est l'Édipe égyptien, qui lui alors entreprend de donner une explication, une traduction de tous les monuments égyptiens connus. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ces deux frontispices qui sont vraiment admirables. Enfin, il y a tout un symbolisme qui est là derrière. On n'a pas le temps de commenter. Et bien sûr, l'Édipe est égyptien. L'Édipe, c'est Kircher lui-même, évidemment, vous l'aurez compris, qui est le premier à avoir pu répondre aux énigmes du Sphinx. Viendront alors d'autres, j'en ai déjà touché un mot, mais je ne résiste pas au plaisir de vous donner quelques planches ou quelques frontispices, ça dépend les ouvrages. Donc les obélisques, 1666, l'Arche de Noé, le Sphinx Mystagogue et le tout dernier, la Tour de Babel, qui vont appuyer, parfois un peu répéter, mais l'essentiel de la doctrine, c'est vraiment dans les deux premiers ouvrages que je vous ai mentionné. Alors, comment fait-il ? Je vous donne ici une page de l'obélisque Pamphile. Il va procéder par ce qu'il appelle des schématismi, un schématismus, qui sont des périodes qu'il essaye d'isoler dans les inscriptions. Et vous voyez que chaque signe est numéroté. Vous voyez ? C'est numéroté. Vous avez une traduction ici, avec à chaque fois les numéros qui sont repris. Et vous voyez que pour un numéro, vous avez parfois une traduction qui est quand même assez longue, et vous avez, soit avant, soit après, ça dépend, vous avez alors l'explication, avec parfois des renvois alors au premier tome de l'Édipe égyptien. Alors, si on regarde maintenant un peu plus près, une de ces traductions, alors ça vient de l'obélisque Pamphile, et on va s'intéresser ici aux cartouches. À ce moment-ci, donc au XVIIe siècle, on ne sait pas encore ce qu'est un cartouche. C'est plus tard, c'est l'abbé Barthélemy qui aura cette intuition que c'est peut-être bien des noms de rois ou des noms de divinités qui sont isolés dans ce grand ovale, mais à l'époque de Kircher, on ne sait pas ça du tout. Et voici donc la traduction qui donne de ceci. Alors, en fait, ça veut juste dire César Domitien, ça ne veut rien dire de plus. Et puis alors ici, vous avez l'épithète qu'il vive éternellement, mais Kircher va en faire la traduction suivante, la force bienveillante et génératrice qui commande à travers la domination supérieure et inférieure, augmente le flux des humeurs sacrées émanant du dessus. Puis je m'arrête là, vous lirez bien la suite pour vous-même, mais ce sont des traductions, pour en reprendre une expression d'un auteur moderne, vraiment des traductions boursouflées, enfin, il n'y a vraiment pas d'autre mot, et la traduction est parfois plus difficile à comprendre finalement que le texte égyptien. Alors, si on fait à nouveau une comparaison entre la Renaissance et Kircher, qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qui est différent ? Ben, interprétation symbolique dans les deux cas. Dans une inscription, pas de segmentation, il ne sait pas comment segmenter les signes. Il n'y a pas de segmentation, pas de classification, pardon, morphologique. Donc, quand Kircher reconnaît, entre guillemets, qu'un signe représente telle idée, il n'a aucune indication quant à savoir si cette idée doit s'incarner dans un substantif, dans un verbe, dans un adjectif, dans un adverbe, il ne le sait pas. Donc s'il voit par exemple que telle image signifie par exemple l'idée d'aller vite, est-ce que c'est le verbe courir, est-ce que c'est l'adverbe rapidement, est-ce que c'est le substantif la course, il n'y a aucune manière de le savoir. Et donc il doit essayer alors de faire des phrases avec ça, en se faisant une idée du temps, puisque le temps, le mode, l'aspect, rien de tout ça n'est donné. Donc ça, c'est exactement la même manière qu'à la Renaissance, on fabriquait les néo-hiéroglyphes. Donc c'est exactement la même chose, il est dans cette tradition. En revanche, lui, il opère avec des vrais signes hiéroglyphiques, supposés tels, donc il ne s'occupe pas des hiéroglyphiques. Lui, il traduit des inscriptions, il n'en compose pas. À la Renaissance, on n'a aucun présupposé de quoi que ce soit, et je vous ai rappelé tout à l'heure que la composante divertissement, jeu, était quand même très très importante, tandis que Kircher lui a des fondements théologiques extrêmement puissants, à défaut d'être solides, et évidemment pas de divertissement. Alors, autre exemple aussi pour vous montrer la manière dont Kircher parfois travaille. Quand il a donc parvenu à déchiffrer une inscription, il doit en faire une phrase. Et alors, il a à sa disposition plusieurs modes rhétoriques. Et donc, comme il l'explique dans le Sphinx Mystagogue, il dit qu'il est possible d'adapter les symboles en fonction de la signification littérale, historique, anthropologique, mystique, allégorique, anagogique, des différentes acceptions, de sorte que ces mêmes acceptions, en restant proches de l'analogie implicite des choses, révèlent les concepts complets de la philosophie et de la théologie. Si ce n'est pas se gargariser avec des mots, je ne sais pas ce que c'est. C'est là, selon Aristote, dans la philosophie qui traite de la mentalité des Égyptiens, on ne doit pas avoir la même version d'Aristote, une invention admirable et louable. Alors, pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, ah là malheureusement, il y a quelques mots coptes qui ne sont pas passés. Voici à nouveau un exemple tiré de l'obélisque Pamphile. Et on va s'intéresser ici, je vous en mets des agrandissements successifs, au signe qui se trouve ici. Voilà, et je vous remets l'hiéroglyphe dans. C'est un hiéroglyphe tardif, hein, on est ici au 1er siècle de notre ère, et qui ne représente rien d'autre que la déesse. Donc, que va en faire Kircher? Il va voir là-dedans, voilà, donc ça c'est tiré de la planche de l'obélisque Pamphile, voilà l'agrandissement. Il va voir là-dedans un autel sur lequel on a placé une figure humaine, et tiré avec les mains et les pieds, et ça, pour lui, ça représente la maison du monde. Et le signe que vous avez ici, qui représente simplement un T dans l'écriture hiéroglyphique, je ne sais pas où il a été voir ça, vous me direz, oui, il n'a peut-être pas bien vu parce que c'était haut, pas du tout. Avant qu'on ne redresse l'obélisque était couché, on a eu tout le temps de faire tous les relevés qu'on voulait, et donc il va voir là-dedans deux lettres coptes, alors à la limite je vais encore bien voir un omicron et un sigma, mais la première lettre, il va y voir un jima en fait, c'est-à-dire, justement c'est le seul qui a à peu près réchappé du naufrage ici, c'est donc ce signe avec une petite courbe qui part vers le haut, et il va y voir l'abréviation de koei, c'est-à-dire Dieu, le Seigneur, littéralement, ça dérive pour les égyptologues qui sont dans la salle de l'ancien mot Chesu, le commandant, c'est ce qui donne Joyce ou Kois, ça dépend des dialectes, en copte. Et donc il va y voir une manifestation du nom de Dieu. Donc vous voyez que ça peut quand même aller assez loin. Il a aussi une confiance, mais complètement inébranlable en ses capacités. Nous retournons ici dans le Sphinx Mystagogue, et à propos d'une toute petite inscription qui se trouve ici, il n'hésite pas à nous dire, bon, je vous l'ai mis ici en plus grand, oups là, où sommes-nous, voilà, ça ne lui convient pas tellement bien l'inscription qui est là, alors il corrige. Voilà, et il nous dit, étant donné qu'une grande partie est imparfaite ou en lacune, nous avons remis cela dans la forme originale en nous inspirant d'autres représentations exprimées avec une plume un peu plus correcte, exactiori pena expressis. Donc il a une confiance inébranlable et donc même quand il a un texte égyptien, il n'hésite pas à corriger. Évidemment, ce sont des choses qui n'existeraient plus à notre époque, comme nous le savons. Nous avons le plus grand respect pour les textes. Voici encore un autre exemple ici, où une petite phrase tout aussi bête que l'introduction des paroles d'un dieu, ici en l'occurrence Osiris, voilà la traduction qui est donnée par Kircher. Donc ce que je vous ai mis là, c'est la traduction de ce groupe-ci. Ça ne veut rien dire d'autre que parole prononcée par Osiris, c'est très très court, et voilà à nouveau une traduction qui prend plusieurs lignes. Donc, quand Kircher décède en 1680, il y a comme un moment de stupeur, je ne sais pas, dans toute l'Europe, et il faut attendre plusieurs dizaines d'années avant qu'on ne commence à déconstruire le modèle. Et l'ouvrage qui a peut-être fait le plus pour déconstruire le modèle, c'est un ouvrage très général, à vrai dire, de Warburton, Divine Legation of Moses, paru à Londres en 1738, mais il consacre une partie importante là-dedans aux écritures anciennes et notamment à l'écriture hiéroglyphique. Et cette partie sur l'écriture hiéroglyphique a eu un tel retentissement qu'on en a même eu des éditions séparées, dont ici une édition en français due à Léonard de Malpaine, et là on est en 1744. Et Warburton est vraiment le premier qui va montrer, sans vraiment arriver avec des solutions, mais qui va le premier montrer quand même les impasses dans lesquelles la recherche de Kircher avait conduit la recherche. Je vous donne ici pour vous montrer qu'on est dans un tout autre type d'approche, ici plus paléographique et plus philologique, une planche qui est insérée dans l'ouvrage de Warburton, mais qui est en fait tirée du conte de Caylus. Alors, juste pour terminer, deux citations venant de Warburton, qui n'était pas un personnage facile, hein, évêque de Gloucester, et qui a eu un peu maille à partir avec Voltaire aussi, mais interposé. Apparemment, Voltaire ne l'appréciait pas très fort. Lui-même a fait des contre-propositions. Mais enfin, voilà les mots un peu durs quand même qu'il a pour le père Kircher. Néanmoins, dit-il, donc c'est Warburton qui parle, animé par la gloire qui lui reviendrait de la découverte, ce qu'il ne pouvait trouver, il voulut l'inventer. Quelques ouvrages des derniers Grecs, comparés avec les plus anciens hiéroglyphes des Égyptiens, servent de fondement à son système. Et puis alors, le dernier clou dans le cercueil, aussi est-il plaisant de le voir avec les ouvrages des derniers Grecs platoniciens, et les livres forgés, donc ça veut dire des faux, hein, les livres forgés d'Hermès, qui contiennent une philosophie qui n'est point égyptienne, travaillée dans le cours d'une demi-douzaine d'in-folio, en fait c'est plus qu'une demi-douzaine, à expliquer et à éclaircir des monuments qui ne sont point philosophiques. Nous le laisserons donc courir après l'ombre d'un songe, ce qui a son anthropos, serait-il pu dire, dans tous les espaces imaginaires du platonisme pythagorique, et nous reprendrons la suite de notre discours, et avec ça, il clôt la parenthèse sur Kircher. Je vous ai dit au début de mon exposé que Kircher n'était pas du tout intéressé par produire lui-même des hiéroglyphes, mais quand même, il n'a pas pu s'empêcher, à une occasion en tout cas, de montrer l'étendue de sa science en composant une petite inscription hiéroglyphique de son cru. Alors il s'agit en fait d'une dédicace qui se situe au début de l'Édipe égyptien. Vous savez que c'était la tradition, notamment pour remercier tous ceux qui avaient accepter de patronner l'œuvre et aussi, dans le cas de l'Édipe égyptien, de la financer, d'avoir une série de textes de remerciement. Et donc, il y a, dans l'Édipe égyptien, il y a 27 éloges, chacun rédigé dans une langue différente. Donc, c'est vraiment pour montrer la virtuosité du personnage. Et le tout dernier, évidemment, l'apothéose, c'est cet obélisque que vous avez ici, où vous avez des signes Et on va y revenir dans un moment. Vous voyez tout de suite que ce n'est pas des néo-hiéroglyphes, ça ressemble à des vrais hiéroglyphes, mais enfin, c'est un peu comme le Canada Dry. Et ici, heureusement, il nous donne la traduction. Donc vous voyez tout de suite que ça n'a absolument rien à voir. Et si on fait maintenant la comparaison avec trois obélisques, un obélisque de néo-hiéroglyphes de la Renaissance, et c'est ici un tableau de De Boeckelaer, on est en 1565, une scène de marché tirée de Ecce Homo, et vous voyez ici des hiéroglyphes qui sont véritablement des néo-hiéroglyphes. Vous avez l'obélisque de Kircher, et puis vous avez ici l'obélisque du Latran, et je vous ai mis ici un agrandissement pour que vous voyez un peu mieux. Eh bien, Kircher se situe exactement entre les deux. Vous avez des hiéroglyphes qui tirent plus de cette tradition, donc cette tradition archéologique et documentaire, mais quand vous regardez l'interprétation et la traduction qui est proposée, on tire plutôt de ce côté ici, et il est bien l'héritier de la tradition de la Renaissance, du moins pour cet aspect des choses. Et donc je vais terminer ici, non sans, parce que je suis passé au Louvre hier et j'ai revu ce petit objet que je vais vous montrer. Pour vous montrer que même après, probablement un petit peu après Kircher, mais on ne sait pas, ce n'est pas autrement daté, la production de pseudo ou de faux hiéroglyphes n'avait pas totalement cessé. Et donc, je vous repropose ce petit sphinx où vous voyez, donc, cet objet est connu par le catalogue de Caylus et l'inscription que vous avez ici, qui, à n'en point douter, n'est pas égyptienne, figure déjà, donc c'est antérieur. Est-ce que cette inscription a été faite au XVIIe, peut-être avant, peut-être au XVIIIe, je n'en sais rien du tout, en tout cas, il y en a peut-être dans la salle qui ont des idées, mais c'est pour montrer que cette tradition, et vous voyez que ce ne sont pas des néo-hiéroglyphes, les signes sont inspirés de vrais hiéroglyphes, mais l'ensemble, évidemment, n'a aucune... du moins, à mon sens, n'a aucune valeur proprement linguistique. Voilà, avec ceci, donc, nous sommes arrivés au bout de notre parcours que nous avons commencé il y a un mois. Donc, nous sommes partis de ces idées parfois un peu généreuses des humanismes de la première Renaissance qui pensaient peut-être retrouver une écriture universelle, à défaut d'un langage universel. Les artistes se sont emparés de ça et en ont plutôt fait un objet de divertissement intellectuel, aussi de curiosité esthétique. Et finalement, nous avons le père Kircher, que nous avons un peu mieux connu, un peu mieux appris à connaître aujourd'hui, qui s'est emparé de certaines idées de la Renaissance, notamment ce mode d'explication symbolique, mais pour le faire servir tout à fait à autre chose. Et donc, quand Kircher décède, ben, on se rend compte qu'on est arrivé, on ne pouvait pas aller plus loin dans cette voie-là. Et donc, après un moment de... un peu d'apathie ou de stupéfaction, il a fallu alors déconstruire ce modèle, et ça a pris plusieurs dizaines d'années, pour que ensuite, grâce au travail des antiquaires, une approche beaucoup plus antiquariale des choses, qui voulait vraiment d'abord rassembler des monuments, s'assurer de leur provenance, on a pu alors, avec Montfaucon, avec Caylus, avec d'autres, constituer des corpus. Et ça, ce sont toutes les petites graines qu'on a semées et qui finalement ont rendu l'expédition d'Égypte, dans sa partie scientifique, elle a pu avoir le succès qu'on lui connaît parce que la déconstruction avait déjà eu lieu, était même terminée, et qu'on repartait vers des bases proprement philologiques. Je rappelle par exemple les travaux de Barthélemy sur les écritures palmyréniennes, etc. C'était une autre manière de voir et de considérer les écritures et les langues de l'Antiquité. Voilà, on s'arrête ici. Je vous remercie à nouveau. Je remercie le professeur Fournet et le Collège de France pour l'invitation qui m'a permis de présenter quelques idées devant vous. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.